Il est temps d'accueillir Mathieu pour sa chronique Les Apatrides Anonymes. Salut Mathieu, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Salut Antoine. On parlait un peu du super programme de la CAQ en matière d'immigration. On parlait aussi d'une nouvelle initiative lancée en Europe pour faire des camps de réfugiés pour les demandeurs d'asile directement en Afrique. Et aussi, je vais commencer avec certaines nouvelles autour des programmes d'immigration ici au Canada.
Vas-y, parle-nous de ça.
Donc, pas beaucoup de gens s'en rappellent, j'imagine, mais il y a 4 ans, en avril 2011, il y a eu un nouveau règlement qui a concerné le programme des travailleurs immigrants temporaires qui donnait 4 ans, donc à partir de ce moment-là, aux travailleurs qui sont dans ce programme-là pour rester au Canada. Donc, il faut travailler un maximum de 4 ans et ensuite être renvoyé tout simplement, donc une marchandise jetable, comme ça arrive dans plusieurs programmes ici au Canada et ailleurs. Donc, le 1er avril 2015, c'est dans quelques jours. Et là, il y a des milliers de personnes qui ne savent pas trop ce qui va arriver avec eux et avec elles. C'est des gens qui sont sur des programmes, entre autres, au niveau agricole, au niveau domestique. Et ces gens-là, la plupart veulent rester ici parce qu'ils ont commencé à faire leur vie ici, ont des familles ici, remplissent des besoins aussi en main-d'œuvre qui sont nécessaires. Et là, il y a comme une espèce de flou parce qu'officiellement, le 1er avril, ils devront quitter si ça fait 4 ans qu'ils sont là. Donc, on parle de 4 ans consécutifs. Et ils ne peuvent revenir avant 4 autres années pour retravailler au Canada.
Il y a une grosse vague de déportation qui s'annonce puisqu'il y a eu aussi les Haïtiens, les Zimbabwéens qui ont été annoncés.
Oui, exactement. Ça, c'est la fin des moratoires. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. Donc, là, il y a eu un programme en Alberta qui était temporaire, qui devait prolonger parce que l'Alberta a une énorme population de travailleurs migrants. Pour les autres provinces, on ne le sait pas trop, donc on va surveiller ça dans les prochaines semaines. Le Conseil canadien pour les réfugiés a envoyé un communiqué justement pour alerter un peu la population et les médias là-dessus, parce que ça devrait... Bon, ces gens-là devraient avoir droit à la résidence permanente, évidemment, après tant d'années à travailler ici. Et là, on se retrouve dans une espèce de vide ou de crainte d'être déporté d'un jour à l'autre, donc ça va être, à surveiller. On parle des travailleurs migrants qu'on qualifie de peu qualifiés au niveau, par exemple, domestique ou de l'agriculture ou des services, par rapport à des travailleurs qualifiés qui ont d'autres types de programmes. Si on a divisé ça fait longtemps entre les différentes classes de travailleurs. Toujours dans le même sujet, il y a une recrudescence, tu en parlais justement, des rafles ou des descentes de l'Agence des services frontaliers du Canada depuis quelques semaines. C'est ce que Solidarité sans frontières souligne dans ses dernières communications. On parle de la grande région de Montréal, donc des descentes dans des domiciles, dans des usines pour essayer d'attraper des travailleurs illégaux, des immigrants illégaux. Mais on parle quand même de pression sur certaines personnes dites sans papier pour dénoncer d'autres personnes, des séparations de famille, des situations de profilage racial dans des lieux publics. Donc, des choses très, très...
Des méthodes assez graves, on va dire.
Ouais. Assez graves et assez répétitives depuis quelques années. Donc, Solidarité sans frontières avertit un peu la population, les médias, les alliés, les personnes sans papier elles-mêmes de faire attention aussi de dénoncer les situations.
Et se mobiliser.
Et beaucoup de gens ont été arrêtés dans ce cadre de ces rafles-là. Ils n'ont pas eu le droit à un avocat, donc ont été envoyés dans des centres de détention directement. Donc, entorse évidemment aux règles, aux peu de règles qu'il y a pour défendre les sans-papiers ou les gens sans statut. Donc, autre nouvelle. Donc, mais une petite bonne nouvelle à travers ça, on a deux camarades, dont Noé Ortega Santos, qui milite dans beaucoup de groupes ici à Montréal, qui ont gagné leur cause en cours pour avoir été injustement congédiés et expulsés. C'était deux travailleurs agricoles guatémaltèques ça faisait 5 ans qu'ils faisaient des démarches pour congédiement justifié parce qu'ils avaient organisé des protestations dans leur milieu de travail parce qu'un de leurs camarades n'avait pas le droit à des services de santé alors qu'il était malade. Donc, ces gens-là avaient été donc congédiés et déportés vers le Guatemala. Ils sont revenus après sur un autre programme. Et là, on a gagné contre l'entreprise Savoura, qui produit beaucoup de tomates ici au Québec, donc au niveau agricole. Ils ont donc gagné leur cause il y a quelques semaines. Mais comme par hasard, la compagnie vient de tomber sous la loi des faillites. Donc, ils ne savent pas du tout si on va avoir une compensation. Okay. Mais c'est quand même un précédent intéressant pour d'autres...
On avait reçu Noé ici à CQUT dans Légalise pour parler de sa cause. Et c'est vrai qu'au final, si l'entreprise tombe en faillite, c'est un peu dommage pour les droits et intérêts éventuels. Mais bon.
Pour les compensations, mais aussi, comme je disais, le précédent est fait. Peut-être aussi souligner que dans le cadre des travailleurs agricoles, il y a un projet de loi qui a été adopté à l'automne dernier qui interdit maintenant aux travailleurs agricoles temporaires ou pas de se syndiquer. Donc, c'est un autre obstacle de plus donc, à la défense de leurs droits. Et il y a des listes noires qui existent pour ceux et celles qui contestent, qui défendent leurs droits. Donc, c'est un milieu assez difficile. Il y a une vidéo qui a été faite donc, qui s'appelle qui concerne Savoura et les travailleurs immigrants. Allez le voir sur Internet. Vous pouvez le trouver comme ça, Savoura, donc, pour voir le vidéo. Au niveau de la CAQ, Coalition Avenir Québec, parti politique plutôt de droite au Québec, oui. Qui existe depuis quelques années, a lancé la semaine passée, presque il y a deux semaines, son programme au niveau de l'immigration, qui ressemble un peu aux orientations du Parti conservateur au fédéral depuis quelques années, mais qui va encore plus loin. On parle ici d'accélérer la procédure d'immigration pour les personnes ayant des qualifications qui correspondent aux besoins du marché du travail. Donc, c'est toujours la même logique depuis quelques années. On ajuste l'immigration aux besoins des entreprises privées.
Oui,
donc, pas pour les droits, pas pour l'asile, pas pour les familles, mais bien pour les entreprises canadiennes et donc l'économie. Et évidemment, il en a profité pour dire que ses propositions pourraient, je parle de François Legault, pourraient aussi répondre aux préoccupations soulevées par la fameuse radicalisation des jeunes dont on parle beaucoup ces temps-ci ici. Peut-être dire que...
quel pas besoin juste ici, évidemment, de connecter les immigrés directement à la radicalisation,
évidemment.
Encore une fois. Ouais.
Ben écoute, c'est de la belle démagogie, c'est sûr. Donc le modèle, pour ceux et celles qui connaissent un peu le modèle canadien, ben on parle ici évidemment qu'au Québec, les gens doivent avoir un certificat de sélection du Québec qui recommande au fédéral et ensuite les gens ont leur résidence. Éventuellement leur citoyenneté. Là, il veut vraiment rajouter des étapes et renforcer un peu le filet, c'est-à-dire instaurer un certificat d'accompagnement transitoire pour 3 ans. Donc, les gens seraient en test pour 3 ans avant de pouvoir avoir quoi que ce soit comme statut officiel. Donc, ils seraient évalués après 3 ans, donc les immigrants, sur leur connaissance du français et des valeurs québécoises, ainsi que leur la validité de leur recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment des critères qui sont nouveaux, qui sont assez intenses. Et les gens, s'ils passent le test, ils obtiennent le certificat de sélection. Beau lapsus. ça existe aussi.
et
ensuite, mais ils doivent signer une déclaration qui les engage à respecter les valeurs de la société québécoise. Là, on va assez loin quand même au niveau du contrôle et au niveau de la pseudo-indécration. Et ceux qui passent pas leur test ont une autre année pour essayer. Sinon, après, c'est l'expulsion. Mais pendant tout ce temps-là, les gens ne sont ni résidents permanents, ni citoyens. Donc, ils sont dans une espèce de nouveau statut en attente d'eux.
Et quand on lit ça directement avec les procédures de déportation dont tu as parlé avant, ça crée un petit souci quand même.
Oui, ça en fait des liens assez vite. Mais évidemment, selon la loi canadienne actuellement en immigration, ça serait impossible d'appliquer ça parce que c'est le Canada qui a le dernier mot sur les immigrants qui expulse. Ouais. C'est pas le Québec qui peut faire ça. Donc, il faudrait renégocier des ententes et tout. Bon, c'est un projet populiste qui a été lancé dans la vague qu'on a actuellement de préoccupations et un peu de crise autour de l'immigration, des valeurs et blablabla. Mais disons que c'est quand même inquiétant de voir que ce parti qui quand même a beaucoup d'appui puisse proposer des choses aussi directement de ça sans trop s'en faire. Pendant qu'au Parti québécois, on revient avec la Charte des valeurs et aussi on a des propos comme ceux de Péladeau sur l'immigration qui est un problème. Donc, on commence à ressembler à certains pays... que tu connais, Antoine.
Oui, je pense. Connais,
Justement, parlant d'Europe, donc l'Union européenne ressuscite l'idée de créer des camps de réfugiés transitoires en Afrique. On parle pour l'instant dans les pays qui ont été nommés Tunisie, Niger, Soudan. Il y a un projet pilote au Niger qui devrait commencer dans quelques semaines. Donc, devant le flux migratoire qui augmente à chaque année de migrants légaux, illégaux, plus ou moins officiels, entre autres par la Méditerranée. Il y a aussi l'Europe de l'Est, mais là, on parle ici plus de la Méditerranée. On parle, en 2014, de 200 villes migrants qui ont traversé la Méditerranée contre 70 000 en 2013. Donc, on parle de faire ces camps-là qui avaient déjà été dans l'air, mais évidemment qui serait super complexe au niveau à la fois administratif, légal, au niveau politique et au niveau social. Donc, où les gens seraient triés selon le fait qu'ils sont des immigrants légitimes ou pas, des réfugiés légitimes ou pas. Donc, encore un peu la même mentalité de bons et mauvais immigrants. Donc, leur dossier sera examiné là pour les besoins de protection et obtiendrait éventuellement le droit de les transférer en Europe. Mais on sait très bien que les pays européens et l'Union européenne ne font pas vraiment ça pour se préoccuper du sort des gens, mais plus parce qu'ils sont débordés complètement.
Ça paraît une mesure qui est assez dramatique quand on sait le nombre de migrants qui meurent chaque année en essayant de traverser la Méditerranée.
Des dizaines de milliers. Mais en même temps, on sait que le problème, c'est pas nécessairement qu'ils soient triés ou pas à un endroit ou l'autre, c'est plus qu'il y a des pays où est-ce que les gens fuient parce qu'il y a des raisons objectives. Et aussi parce que les gens veulent venir en Europe parce qu'il y a un meilleur niveau de vie. Et ben, évidemment, ici, on veut séparer les réfugiés politiques des réfugiés économiques, qui sont aussi de plus en plus nombreux parce qu'il y a des problèmes économiques un peu partout dans les pays du Sud, entre autres. Donc, bon, on parle ici d'une collaboration avec le Haut Commissaire pour les réfugiés et l'Organisation mondiale des migrations pour faire ces camps-là. Mais c'est ça, on précise vraiment qu'on ne veut pas des migrants économiques. Donc, comment on peut faire la différence quand on est dans un camp de réfugiés? La question n'est pas évidente. Donc, mais tout ça pour dire que, au lieu d'attaquer les sources du problème, c'est-à-dire le fait de pourquoi les gens migrent tant que ça, pourquoi les gens veulent venir en Europe, on essaie de trouver des solutions un peu temporaires. Et évidemment, les pays qui sont les plus touchés, comme l'Italie, la Grèce, par les gens qui arrivent par mer, comme tu disais, font de la pression sur les autres pays qui, eux, ne veulent pas payer pour ce genre d'initiative-là non plus. Donc, toutes les dynamiques à l'intérieur de l'Union européenne, évidemment. Ouais. Et il y a aussi l'Allemagne avec les pays de l'Est, il y a aussi l'Angleterre avec, bon, la France, tout ça. Donc, c'est toujours un peu les mêmes débats qu'on a depuis quelques mois. Ouais. Et le nombre de morts en mer, évidemment, accentue la pression pour trouver des solutions. Mais malheureusement, on n'est peut-être pas dans les solutions très, très générales. Peut-être quelques instants pour te dire aussi que, justement, dans le même sujet, je te parlais tantôt du nombre d'immigrants par la Méditerranée. Au niveau des immigrants dits illégaux, en 2014, on parle de 274 000 contre un peu plus de 100 000 en 2013. Ça, c'est ceux qui sont recensés, évidemment. Les plus nombreux sont les Syriens depuis plusieurs années. On ne se demande pas pourquoi. Et on a aussi des situations de crise importantes en Érythrée, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, en Irak et en Libye. Donc, ça fait aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, surtout par la Libye maintenant, qui est le principal endroit d'où les gens partent pour l'Europe. Et on parle de 170 000 en Italie, de 50 000 en Grèce. Donc, comme je te disais, c'est assez important comme nombre de migration. Et on va avoir dans les prochains mois aussi d'autres propositions de l'Union européenne. Mais en attendant, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aide, qui meurent, et il n'y a pas de solution de fond là, qui sont faites. J'ai peut-être une petite brève.
Encore le temps, bien sûr.
En terminant. On revient au Canada rapidement. Un article d'un camarade qui travaille pour les droits des migrants, Samir Sahin Hussein, qui a produit un article assez intéressant, en anglais par exemple, dans le numéro mars-avril du magazine Briach Patch. C'est B-R-I-A-R-P-A-T-C-H. Un article sur l'accès aux soins de santé pour les migrants. Il y a eu beaucoup de changements depuis quelques années. Il y a des gens qui n'ont plus droit. Et ça offre une critique aussi des effets néfastes des politiques canadiennes actuelles sur la santé et le bien-être des migrants. Donc, ça vous tente d'aller lire cet article-là. C'est un article de fond assez intéressant qui donne un bon portrait. Donc, Briart Patch, donc le magazine, Samir Sahin Hussein. L'article s'appelle « Beyond the cuts to refugee healthcare, immigration policies kill ».
Donc, on conseille à tous nos auditeurs d'aller lire cet article.
Bien, certainement, dans les sujets qu'on parle ici. Et je voulais peut-être aussi saluer, en terminant, la mobilisation qu'on a eue samedi dernier pour la manif contre le groupe Pédiga dans le quartier Saint-Michel. Donc, des centaines de personnes se sont mobilisées et la manif de ces gens-là, on ne sait pas trop s'il existe, n'a pas eu lieu parce qu'ils étaient trop peu nombreux. Il y en a une autre de prévue en fait semaine prochaine, donc il y a une contre-manif de prévue aussi.
On peut signaler quand même que l'attitude de la police était limite plus bienveillante pour Pegida que pour les anti-Pegida, donc c'est parfois un peu bizarre dans ce contexte.
Oui, tout à fait. Comme on a vu au cégep Maisonneuve hier aussi, il y a eu un peu de brassage entre des gens qui voulaient dénoncer l'islamisation du Québec et ceux qui les traitaient d'islamophobes et de racistes. Donc, ça risque de continuer. Ce débat-là, avec tout ce qu'on a parlé dans la chronique, sont très présents ici actuellement.
Bien sûr. Ben, merci beaucoup, Mathieu.
On revient dans trois semaines, donc le 20 avril.
Voilà.